got you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Jean-Frédéric, réalisation Thomas Beau. Autour de moi, ce soir, Lucille Como, Marie-Josée Sirach et Philippe Chevillier pour parler ensemble de Bérénice, de Jean Racine, mise en scène par Céline Pot, en ce moment à l'affiche du Théâtre de l'Odéon à Paris. L'Oiseau Vert de Carlos Gozzi, mise en scène Laurent Pelli au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et enfin, Parole gelée d'après François Rabelais, mise en scène Jean Bellorini au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Aïssa Tundoy est là pour surveiller les fils Twitter et Facebook pour donner entendre vos commentaires. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le spectacle « Que sera le théâtre en 2018 ?» de Cyril Cotineau et Sébastien Davis. C'est vendredi 25 mai à 20h30 au Théâtre de Nice à l'occasion de l'événement « Les Utopies culturelles ». Titus, empereur de Rome, aime une reine, Bérénice, et en est aimé. Antiochus, le meilleur ami de Titus, l'aime aussi, secrètement, mais Titus est empêché dans son amour par les lois romaines qui interdisent à l'empereur d'épouser une reine étrangère. On connaît sans doute la trame de La plus belle pièce en langue française, ça c'est mon avis, ici mise en scène par Céline Pot, qui a très bien servi par le passé les écritures de Thomas Bernhardt, Henry James, Christine Angot, Maurice Maeterlinck, ou encore Marguerite Duras. Autant dire que la patronne du Centre Dramatique National Besançon-Franche-Comté est une grande lectrice, que sa vision de la tragédie racinienne était pour moi très attendue. Elle a choisi la jeune Mélodie Richard, vue notamment au cinéma chez Desplechin ou Christophe Honoré, pour incarner l'héroïne et nous offre une lecture, on va le comprendre, durracienne et politique de ce drame amoureux entre colons et colonisés.
Sans doute ce chagrin qui vient de m'alarmer n'est qu'un léger soupçon facile à désarmer. Je ne te vante point cette faible victoire, Titus. Ah, plutôt ciel que semblait c'est ta gloire. Un rival plus puissant voulut tenter ma foi et put mettre à mes pieds plus d'empire que toi. Que de sceptres sans nombre, il put payer ma flamme, que ton amour n'eut rien à donner, que ton âme. C'est alors, cher Titus, qu'aimé, victorieux, tu verrais de quel prix ton cœur est à mes yeux. Allons, Félix, un mot pourra le satisfaire. Rassurons-nous, mon cœur, je puis encore lui plaire. Je me comptais trop tôt au rang des malheureux. Si Titus est jaloux, Titus est amoureux.
L'endroit s'appelle encore Césarée, Césaréa. La fin de la mer. La mer qui cogne contre les déserts.
Seigneur, dès ce moment, contentez mes souhaits ou soyez de ma haine assurée pour jamais.
Madame, après cela, je ne puis plus me taire. Eh bien, vous le voulez, il faut vous satisfaire, mais ne vous flattez point. Je vais vous annoncer peut-être des malheurs où vous n'osez penser. Je connais votre cœur. Vous devez vous attendre que je le vais frapper par l'endroit le plus tendre. Titus m'a commandé.
Quoi ?
De vous déclarer qu'à jamais, l'un de l'autre, il faut vous séparer.
Nous séparer ? Qui ? Moi ? Titus ? De Bérénice ?
Il faut que, devant vous, je lui rende justice. Tout ce que dans un cœur sensible et généreux, l'amour au désespoir peut rassembler d'affreux, je l'ai vu dans le sien.
Voilà pour ce petit montage d'extrait de cette production de Bérénice, montage car on aura entendu aussi la voix de Marguerite Duras, voix qui revient à plusieurs reprises au cours du spectacle, extrait d'un court-métrage, donc Césarée, je crois réalisé à la fin des années 70 par Marguerite Duras, et qui est, explique Célipo, de sa, qui a été sa porte d'entrée vers cette mise en scène de Bérénice. Et c'est Philippe Chevillier qui commence à nous en parler.
Alors moi j'avais un petit peu peur au départ justement du mariage dont vous parliez entre Racine et Duras. Ça ne me choque pas en tant que tel parce que moi je trouve que être les gardiens de musée du répertoire c'est pas très intéressant. Donc le mélange pourquoi pas, mais j'avais un petit peu peur que ça soit un peu plaqué. Et je pense que la réussite pour moi du spectacle tient à ce que, justement au fait que ce n'est pas plaqué. C'est-à-dire que on a donc cette filiation qu'elle a essayé que Célipote a essayé de faire entre Racine et puis Duras sur ce court-métrage de 15 minutes, Césarée, qu'elle a fait, je crois, à son retour d'Israël en 1979, avec des chutes de Navier Night, où on voit des statues de marbre. Alors déjà, c'est court ce court-métrage, mais en plus, comme son nom l'indique, mais en plus, c'est pas du tout distillé de façon laborieuse. On a vraiment à chaque fois quelques images entre les actes, donc une fluidité entre les images qui apparaissent presque dans le noir, avec les personnages qui continuent souvent à évoluer, et puis le texte de Racine, donc je trouve que ça se marie parfaitement. Et sur le fond, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus ample, c'est-à-dire que pendant tout le spectacle, on peut s'interroger sur ce qui a fait que Bérénice rencontre Titus, la reine de Palestine, la reine de Judée, de Césarée, elle a quitté Césarée, elle retrouve Titus, et là, ce que nous dit Duras, ce que nous raconte Duras, c'est le départ, c'est l'exil quand elle repart et que l'amour est mort, et là, on entre dans cette logique qui est celle de Célipo, de dire finalement, la maladie de la mort et Bérénice, s'il y a une filiation, parce que la maladie de la mort, c'est la maladie... C'est la maladie de la mort de l'amour et que Bérénice, c'est la mort de l'amour. Donc ça, moi, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné aussi avec le décor que j'ai trouvé très beau, très simple, avec ce mélange justement de Palestine et de Rome, entre ce palais alors, modernisé, transposé, mais avec le sable qui a gagné le palais. Et puis il y a une troisième chose qui m'a beaucoup plu, c'est Mélodie Richard que j'ai trouvé étonnante. J'ai un grand souvenir de Mélodie Richard dans Nouveau Roman, j'en ai un grand souvenir dans La Mouette, mais finalement en l'ayant vue dans La Mouette de Stormeyer, je la voyais pas forcément dans un rôle tragique. Bon, un bon comédien, une bonne comédienne peut faire tous les rôles, mais je la voyais pas dans un rôle tragique forcément. Et là, je trouve qu'elle donne à la fois à ce rôle la dimension tragique en même temps avec une modernité, parce que il y a ce côté un petit peu imprévisible chez elle, où elle peut passer un peu de la reine à la petite fille, avec des choses très étonnantes, avec un phrasé moderne, et en même temps elle porte tout le temps la tragédie, elle ne l'oublie jamais. Alors j'ai des réserves, mais peut-être que je les garde pour tout à l'heure.
Absolument, faisons comme ça. Lucille Como, cette production de Bérénice en ce moment à l'Odéon.
Oui, alors moi j'ai été également très très convaincue par l'utilisation du film de Marguerite Duras, notamment par la manière dont il apparaît dans le décor. Donc en fait, Philippe a un petit peu décrit, il y a un canapé qui forme un angle sur la scène avec en effet du sable qui gagne de plus en plus, on peut imaginer le décor, et qui va presque jusqu'à l'assise du canapé. Et derrière, forme également un L, un angle de grands voiles, voilà, qui font des drapés, qui rappellent évidemment aussi l'Antiquité, et de manière assez subtil, tout ça est très rose, un peu blanc poudré, c'est très très beau, et le film apparaît en effet sur un de ces grands voiles. Moi, ce que j'ai trouvé très fort dans l'utilisation du film, c'est que je crois qu'il ancre profondément la pièce vers un ailleurs, qui est donc cette ville Césarée que Marguerite Duras répète. Enfin, elle répète le nom d'un lieu, c'est vraiment un film sur le nom du lieu et sur ce que ce lieu fait au personnage de Bérénice, et du coup on voit la pièce à travers presque l'Orient, quoi, ce lieu là parce que c'est vrai que Bérénice, on dit toujours princesse juive, princesse de Judée, mais c'est extrêmement abstrait dans le texte racinien et c'est très peu souvent montré. Là, de fait, on la voit à travers son origine et donc aussi son humanité, puisque c'est aussi une manière d'en faire quelqu'un de profondément humain. Et j'en viens du coup au jeu de Mélodie Richard qui convient parfaitement. Je pense que tout ça est très très bien pensé. Et Mélodie Richard a quelque chose d'ancré dans le sol, dans la manière dont vous le disiez, elle est juvénile, elle est sensuelle, elle est extrêmement proche des personnages. C'est celle qui va toucher tout le temps les autres personnages, alors que les autres se touchent très peu entre eux. J'ai trouvé ça très beau. Et il y a aussi une autre chose que ça justifie, et vous parliez, Arnaud, du caractère politique de l'interprétation de Célipote, c'est que du coup, Bérénice est est toujours montrée, non pas seulement comme une amoureuse éperdue, mais comme une arrachée et une immigrée contre sa volonté, et comme une répudiée. D'ailleurs, le mot revient aussi dans le film de Duras. Et ça donne aussi à Mélodie Richard une posture que j'ai assez rarement vue dans d'autres Bérénice, qui est une posture de colère. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très réussi et très bien amené progressivement. Il y a notamment ce début, moi, qui m'a bouleversée de l'acte 4, où on la découvre justement après le film, après que Césarée a été encore assénée par la voix de Marguerite Duras. On la trouve allongée sur le canapé et le texte de Racine est dit, alors je pense que c'est en hébreu.
Oui, c'est en hébreu.
Voilà, en hébreu, on reconnaît des mots et des noms propres, donc on sait que c'est le texte de Racine, et elle le dit à plusieurs reprises dans un état de mi-épouvante, mi-cauchemar, mi-colère, et c'est là que la crise se développe, et c'est un personnage féminin qui se met en crise, et ça change totalement en fait l'interprétation qu'on a et du rapport entre Titus et Bérénice et de la pièce entière, et ça change aussi ce qu'est le personnage de Titus. On peut peut-être juste dire un mot de cet acteur,
Clément Bresson.
Voilà, Clément Bresson, qui je trouve qui est excellent, parce que c'est moins éclatant que Bérénice, c'est moins facile comme type d'interprétation, mais il campe du coup un Titus assez faible, qui est dans une forme, en fait son dilemme, le fameux dilemme racinien, qui est toujours une forme noble en fait d'hésitation, là pour le coup est à nouveau lui un peu fichu par terre par l'interprétation de Célipote, et il est fondamentalement lâche, elle en fait un personnage lâche, qui n'arrive pas à parler et à affronter le personnage féminin. Et je trouve que vraiment tout ça est fait finement, sans forcer le texte, parce qu'on entend très bien Racine. Et vraiment, c'est très très beau. Moi, je suis très très convaincue par cette mise en scène.
Marie-Josée Sirage, convaincue ou pas ?
Peut-être un petit peu moins, même si je partage ce qui vient d'être dit à propos de l'apport du film de Marguerite Duras. C'est vrai que ça ouvre un horizon, ça donne une profondeur de champ à la pièce, une actualité qui peut ne pas être là quand on se contente d'une lecture à plat de l'œuvre de Racine. Cette princesse juive qui trahit les siens, qui abandonne sa Judée natale par amour pour Titus, et qui sera toujours l'étrangère. Ce personnage de l'étrangère prend toute sa force et toute sa dimension dans le temps, dans l'histoire, redonne une dimension politique entre l'Orient, l'Occident. Donc on est à un moment de vérité avec cette pièce-là, un moment de vérité qui aborde aussi bien la question de l'amour que de la politique, que de l'histoire, parce que Titus comme Bérénice sont chargés d'histoire, c'est-à-dire qu'ils sont les héritiers d'eux. Et que vont-ils laisser eux-mêmes en héritage ? Ce sont des questions qui traversent cette pièce. Moi, je suis très moins enthousiaste sur Bérénice. Alors, j'entends ce que vous dites. Moi, je l'ai trouvée un petit peu froide, un petit peu trop lisse dans son jeu. Ça m'a moins touchée. J'étais plus touchée, plus émue par... Antiochus, par
Monir
Margoum. Moi, je l'ai trouvé magnifique dans ce personnage qui est ambigu, mais par la force des choses, parce qu'il est amoureux en secret de Bérénice. Et il cherche le moment de lui dire, il se retient. Et je trouve qu'il fait passer énormément de choses sur le dilemme racinien, c'est-à-dire à quel moment on peut dire ou pas la vérité, comment on l'a dit, quelles sont les conséquences. Enfin, on sent tous ces calculs, toutes ces interrogations, on les sent vibrer, son corps est là, qui parle aussi, presque entre les mots. Je l'ai trouvé très émouvant, ce personnage-là.
Alors, effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup à dire de ce spectacle, et c'est pourquoi aussi je trouve que le travail de Célipote est toujours formidable, parce qu'il est toujours nourrissant pour le spectateur, même si j'ai aussi d'ailleurs quelques réserves. L'espace de jeu, on a passé la scénographie, c'est Guillaume Delavaux, les lumières Sébastien Michaud. Je trouve effectivement aussi très simple et très beau, peut-être un peu trop, l'espace des ateliers Liberté peut-être un peu trop ouvert pour cette scénographie. Je pense que si ça avait été plus contenu dans l'espace, qui doit être le cas dans d'autres salles où ce spectacle a été joué, j'aurais peut-être un peu préféré, mais je trouve très beau. Et bon, on a parlé de Marguerite Duras, cette scansion de Césarée est vraiment une chose très 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 belle. Je vous rejoins absolument là-dessus, donc je ne rentre pas dans les détails. On n'a pas parlé des suivants, notamment Arzas et Phénice. Alors donnons les noms, hein, puisqu'on y est. Arza, c'est Marie Fortuy, et Fénis, c'est Machad Mokberi. Des choix plutôt et des propositions plutôt inattendues que j'ai trouvé plutôt bienvenues dans un cas comme dans l'autre. Gros problème quand même concernant le Paulin d'Hakim Romatif, qui, en tout cas moi le jour où je l'ai vu, c'était un peu compliqué comme type de jeu. Je trouvais très en décalage par rapport aux autres. Et c'est vrai qu'Antiochus, l'Antiochus de Mounir Margoum est assez passionnant à voir, parce que c'est quand même on oublie souvent le grand rôle masculin de Bérénice. Il y a des propositions qui parfois me semblaient un petit peu à côté, mais alors justement, ce qui m'intéresse véritablement ici, pour ouvrir d'autres perspectives après vos propos déjà riches, c'est le travail des comédiens sous sa sorte de dichotomie, voire d'opposition qu'il y a parfois entre l'expression des corps et les alexandrins de Racine. Et je me faisais la réflexion suivante: si on regardait ce spectacle sans le son, je pense que tout le monde croirait qu'ils sont en train de jouer là un texte contemporain. Sauf qu'il y a ces attitudes de corps qui sont... Qui font sonner aussi autrement et de façon très belle, à mon sens, les vers de Racine et ses alexandrins. Et donc, ça donne une autre profondeur. J'ai trouvé ce type de jeu corporel. En même temps, il y a une rythmique qu'on a un peu entendue dans l'extrait qu'on a passé tout à l'heure. Une rythmique très précise également, une façon d'utiliser les accélérations et tout d'un coup les pianissimo. Enfin, je trouve ça très, très judicieux. Je disais tout à l'heure que je tenais des sellipotes pour une grande lectrice et je trouve que c'est le cas encore une fois. Et j'étais comme vous, Lucille Comeau, très, très ému de la façon dont Bérénice retrouve sa langue, l'hébreu, quand elle est au désespoir et en colère. Et je trouve que c'est une idée très, très simple aussi, très bienvenue, comme l'utilisation d'éléments comme la couronne de laurier de César, qui tantôt est un élément de décoration. La Bérénice, quand elle voit enfin Titus, a sa couronne de reine aussi, qu'elle finira par... elle s'en dépossède, elle le jette dans le sable, comme les fleurs aussi, qui évidemment ne pourront rien donner dans le sol, puisqu'on est sur un sol aride. Enfin, il y a quand même des choses très, très simples et que j'ai trouvé très belles. Philippe Chevillet, à nouveau.
Oui, j'avais promis des réserves, et donc les réserves, elles sont sur... justement, moi je ne suis pas très convaincu par le jeu des hommes. Alors, j'aime beaucoup... tous les deux, je pense, ils maîtrisent totalement l'alexandrin, et ce jeu, justement, qui se veut moderne, et qui est assez réussi, je dois dire. C'est vrai qu'ils ont juste. Hein. Moi, j'aime beaucoup Mounir Margoum. Je trouve qu'il y a effectivement des moments où il est émouvant, peut-être un peu trop en retenue. Ce qui me gêne le plus, c'est Titus, parce que je comprends bien que ce que disait Lucille sur la lâcheté du personnage. Mmh. Mais il y a un certain moment où je trouve que il faut quand même qu'il soit empereur. Il faut quand même qu'il soit aussi amoureux. Et par moments, on a l'impression que ce phrasé un peu trop désinvolte, d'une certaine façon. Je suis pour tout à fait un phrasé moderne pour dire les alexandrins. Il les dit très bien, mais son personnage manque à un moment donné, je trouve, de charisme. Et je pense que c'est un problème de direction d'acteur. Et là, j'en reviens à ma deuxième réserve, qui est que c'est tellement une belle mécanique, c'est-à-dire que cette trouvaille, qui est une révélation aussi pour Sellipote de Racine et de Duras, ce décor, cette Bérénice, fait que j'ai l'impression qu'à un certain moment, les choses sont un peu posées et manquent un petit peu au niveau de la mise en scène. Ensuite, on a des petits tunnels par moment, parce que même si c'est judicieux, c'est vrai, les gestes sont judicieux, il manque un petit peu, à mon avis, de travail de mise en scène, ou du moins quelque chose qui ira encore un petit peu plus loin dans la gestuelle, et qui nous porterait plus loin dans l'émotion. Et donc, je pense que là, il y a un problème de direction d'acteur qui est un petit peu abandonné vers la fin et qui se retrouve aussi. D'ailleurs, vous parliez de Paulin. C'est vrai qu'il n'est pas très bien dirigé. Et c'est pour ça que son jeu aussi, peut-être, est un peu étrange. Voilà.
Mais c'est vrai que ça, c'est ma plus grande réserve. Je trouve que ça manque terriblement de chair et de désir. Et je trouve que Mélodie Richard est un peu seule à porter cette brûlure. Ça ne brûle pas beaucoup, alors que, bon, si ça doit brûler, c'est bien dans Bérénice. Mais enfin, bon, ça donne à penser, ce qui est quand même déjà beaucoup pour moi. Mais voilà, ça manque de désir pour moi. Lucille Comeau.
Non, alors moi je suis pas du tout d'accord. Je trouve que Titus, il est, je suis vraiment très très convaincue parce que l'acteur, parce que Clément Bresson en fait. Je crois pas qu'il soit justement dans un manque de sensualité par rapport au personnage de Bérénice. Je trouve que justement, ils marchent bien ensemble. En revanche, moi, alors vraiment gros problème avec Mounir Margoum. Ah, je ouais. crois pas une seule seconde au personnage d'Antiochus. Alors
c'est
en effet,
plus présent,
il
c'est embêtant.
Est tout à fait, oui. il est, puis c'est lui qui commence et c'est lui qui termine. Il est tout à fait en dehors, je trouve, de la proposition de jeu assez cohérente par ailleurs des autres comédiens. Pour moi, c'est beaucoup plus à l'ancienne, dans la gestuelle. Il y a un côté déclamatoire, notamment à la fin. Enfin, moi, le soir où j'y étais, c'était pas très présent au début. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et vraiment, la fin, notamment les dernières tirades, la fameuse tirade dont je me souviens plus le premier vers, mais qui est si fameuse, son monologue. Et la toute fin, c'était vraiment pénible de pathos et de lourdeur. Et du coup, j'avais vraiment l'impression d'un personnage complètement en dehors du reste. Et c'est très dommage parce que justement, la proposition un peu idéologique, enfin du moins narrative de Célipote sur le triangle amoureux, elle était très intéressante. Le rapport entre Titus et Antiochus qu'elle propose, puisque Titus est si lâche, il délègue plein de choses à Antioche, ce qui est vraiment quelque chose de très intéressant, je trouve, dans l'intrigue de Bérénice. Là, ça fonctionne pas parce que les deux sur scène, moi, j'avais vraiment l'impression qu'ils jouaient pas ensemble. Donc vraiment, j'étais très déçue par Mounir Margoum.
Bon,
vraiment.
Peut-être un mauvais soir pour le comédien, c'est le spectacle vivant après tout, Philippe Chevillier.
Je n'ai pas senti ça du tout, mais
Marie-Josée Sirage va parler.
je pense que justement, quand on fait que la proposition qu'elle fait, et en même temps qui se traduit sur scène par une forme d'austérité, c'est que justement elle l'a peut-être pas menée jusqu'au bout pour qu'on ait ce sentiment-là, puisque moi c'est plus sur Titus, vous plus sur Antiochus, mais je trouve qu'il y a un petit décalage dans le jeu des garçons, et Marie-Josée pense un peu l'inverse, j'ai l'impression.
Marie-Josée Sirage.
Non. Comment dire, je trouve qu'il y a, pour reprendre un peu ce que disait Arnaud à propos du mouvement, il y a une chorégraphie des corps dans la pièce. Donc, et c'est curieux l'effet que ça produit parce que il y a du mouvement, mais c'est un mouvement intérieur parce que c'est quand même assez statique. C'est-à-dire qu'ils ne parcourent pas la scène dans tous les sens. Il y a beaucoup de retenue dans leur déplacement. Parfois, les gestes sont en suspens. C'est assez beau la façon de retenir un petit peu l'alexandrin. Et parfois avec des accélérations. Donc ça, je trouve ça très intéressant, cette approche-là. Pour en revenir au personnage, Titus est plus qu'effacé, et je trouve qu'il est un peu... Alors, son rôle, il est effectivement... Il est à la fois lâche, et en même temps, c'est quelqu'un qui a un sens du devoir. Mais le sens du devoir l'emporte sur son amour ou pas. En tout cas, il est dans l'hésitation. Et c'est Antiochus qui reprend la main et qui prend la main finalement et qui non pas qui mène le bal, mais qui et moi je le trouve beaucoup plus convaincant que Titus, qui parfois se dérobe. C'est ce sentiment-là. J'ai toujours le sentiment qu'il se dérobe à la dernière minute.
Alors, peut-être quelques commentaires de nos internautes, Aïssa Tundoy, pour finir.
Oui, un premier commentaire d'Arasat sur Twitter. Beau spectacle où la poésie contemporaine et le théâtre classique se complètent à merveille. Racine et Marguerite Duras sont complices. Louisa Torres, émue, écrit « Célipote a réalisé la Bérénice que j'ai attendue toute ma vie, celle qui chuchote en moi quand je récite le texte, que j'ai maintes fois rêvé sur le théâtre personnel de mes paupières closes. » Pour Anne Angelo, la Bérénice de Célipote vaut essentiellement pour Mélodie Richard, actrice exceptionnelle d'élégance, de charme et de force. Pour le reste, bof bof. Et enfin, pour Mordu de théâtre, Célipote a su trouver la Bérénice parfaite, parfaite, parfaite.
Bon, bah écoutez, trois fois parfaite. On s'est entendu. Oui, vous étiez un peu, un peu moins enthousiaste pour Mélodie Richard,
oui. Marie-Josée. Et puis le décor, je suis moins enthousiaste que vous.
C'est vrai,
le trouve un peu cheap, le décor.
Cheap.
Pour le coup.
Bon.
Non, c'est-à-dire que l'Orient et l'Occident, là-dedans, je le vois pas.
Bah,
bien
le
sûr,
désert
les voiles,
avance.
Ça, le désert
vu,
avance.
Sur le
bon.
Canapé romain, essaye de l'envelopper. Bon. Bah, bon, en même temps, on fait des productions avec les moyens qu'on a. Je ne sais pas quels sont les moyens de Célipote. Quoi, oh.
Quand même.
Je ne sais pas. Bon, enfin, bon, on n'est pas obligé de dépenser tout son argent dans les décors. Il est très bon.
Absolument.
Non, mon sens. Mais voilà, on entend différentes opinions sur ce Bérénice de Jean Racine, mis en scène par Célipote, qui est à voir jusqu'au 10 juin à l'Odéon Théâtre de l'Europe, dans ses ateliers Berthier.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons dans une quinzaine de minutes de Jean Rabelais vu par Jean Bellorini. À présent, c'est Carlos Gozzi par Laurent Pelli pour cette dispute ce soir consacrée au théâtre. Enfin, une mise en scène de Laurent Pelli présentée dans un théâtre parisien. J'ai déjà dit ici plusieurs fois mon étonnement de ne pas voir le travail théâtral de l'ancien patron du théâtre de Toulouse montré dans la capitale. pour une raison que je ne m'explique pas, alors que ses mises en scène lyriques y triomphent régulièrement par ailleurs. En tout cas, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin, théâtre privé donc, que l'on peut voir en ce moment L'Oiseau Vert de Carlos Gozzi, mise en scène de Laurent Pelli créée en 2015, qui a depuis quelque peu tourné avant d'arriver dans la capitale. Carlos Gozzi, c'est un dramaturge vénitien du XVIIIe siècle qui se spécialisa dans le conte théâtral, ses œuvres les plus connues étant L'amour des trois oranges, Le roi cerf et cet oiseau vert, créé en 1765, dont je me garderai bien de résumer l'intrigue, qui quand même qui connaît pas mal de péripéties, mais qui va mettre en présence une méchante reine, son fils le roi dépressif, un couple de charcutiers, des enfants, et donc forcément un oiseau vert.
Miroir des actions humaines, tu ne nous sors du noir que pour voir choses malsaines. Je suis dingue de ce poète. Il dit des choses à peindre, fait des vers à chanter pour un mariage. Ma sœur, plus de douze, nous sommes des bâtards.
Tais-toi, ne crie pas.
Homme qui chante, on qui danse, solide, fluide. Alcaloïde, acide. Il va se passer quelque chose. Mais moi j'en ai vu tant que je doute de tout.
Pourquoi depuis tout ce temps suis-je encore vivante? Enfermée dans cette fosse horrible où tombent sans cesse les ordures puantes.
Tu m'as
aime-toi, aime les autres, et suivant la raison, c'est dans tes mots toi-même que tu seras celui que tu veux.
As-tu entendu les mots de cet oiseau vert qui soudain est apparu?
Suis-moi toi.
Si ce qu'on dit est vrai, voilà que nous y sommes. Voici le jardin de la fée Trufolda.
Et voici les pommes qui chantent.
Un cœur amoureux ne peut raisonner. Ce cœur malheureux, étoile éclairée. Convoitise humaine qui veut toujours plus. Laisse la fontaine, tu seras vaincu.
Voilà pour ce montage de cette production de L'Oiseau Vert, qui donne entendre en tout cas, si ce n'est de respecter le texte dans son intégrité, mais de l'entendre différents éléments de ce spectacle. Donc commence à nous parler Lucille Como.
Oui, alors c'est peu de dire que c'est difficile de résumer l'intrigue, puisqu'il y a, pour situer quand même un petit peu dans cette tradition du 18e italien, il y a à la fois du conte traditionnel, puis il y a des enfants abandonnés, des sorcières, des ogres, il y a du conte philosophique, c'est peut-être ça la forme qui unifie le plus l'intrigue, puisque les deux enfants abandonnés se piquent de philosophie et vont rencontrer, plusieurs personnages et vont traverser plusieurs épreuves qui vont remettre en cause leur passion pour la philosophie. Il y a de la fantaisie, puisqu'il y a beaucoup de ruptures de ton avec ces fameux personnages de charcutiers qui arrivent dans un poème, c'est très étonnant. Et puis il y a aussi beaucoup de comédia dell'arte, ce qui est probablement le plus difficile à traduire et à jouer en français, puisque la traduction est nouvelle, hein, a été adaptée pour l'occasion. Donc des lazzi, des formes d'improvisation, des personnages de clown, on retrouve notamment Pantalon, qui est un personnage bien connu de la comédia dell'arte, donc du poème aussi, puisqu'il y a des parties en vers, on en a entendu un petit peu dans le montage. Donc en fait, il y a tout ça rassemblé. On pourrait croire que c'est du coup passionnant. Moi, je me suis très profondément ennuyée pendant ce spectacle qui dure quand même 2h30. J'ai eu du mal à me situer même dans ce qu'on voulait me montrer. Il y avait beaucoup d'enfants dans la salle, notamment à côté de moi, et j'avais pas l'impression que ça les passionnait non plus. Et pourtant, je pense que ça pourrait peut-être plaire aux enfants si c'était moins long.
J'en avais derrière moi qui étaient passionnés. Ouais. Qui ouais. commentait beaucoup, qui était très drôle.
Mais bon, on doute un peu, mais bon.
Bah, non, mais je vous dis ce que j'ai entendu.
Oui, mais bon, je n'ai. En fait, je sais pas. Dès le départ, en fait, ça ne fonctionnait pas. Je pense que déjà le texte ne m'intéresse pas beaucoup. C'est un texte très imagé, qui est fourré en permanence de blagues, de burlesques. Moi, ça me donne un peu la nausée. Et puis surtout, il est dit toujours exactement de la même manière, ce qu'on a entendu aussi, je trouve, là, dans ce qu'on vient d'entendre, sur le ton de la déclamation, du cri. Vraiment, je ne comprends pas, pour le coup, cette proposition de jeu d'acteur qui me semble extrêmement désuète et très fatigante à la longue, puisque, de toute façon, qu'on soit dans le lazy burlesque ou qu'on soit dans la morale de la fable philosophique, le texte est dit exactement de la même manière, sonorisé ou pas, de toute façon, ça crie. Et vraiment, je comprends pas bien. Bon, après, j'en reviendrai au décor parce que moi, j'aime beaucoup ce que fait Laurent Pelli à l'opéra. J'ai jamais vu ce qu'il faisait au théâtre, mais en l'occurrence, j'aime beaucoup. Et là, à nouveau, je trouve ça assez convaincant, mais ça suffit pas, à mon avis, à compenser l'ennui du texte parce qu'on attend quelque chose qui serait particulièrement spectaculaire. Peut-être le début promet ça, cette espèce de décor en forme de toboggan avec des guirlandes sur les côtés qui jouent un peu sur l'effet fête foraine et cirque. Or, il y a assez, à mon avis, peu d'effets. C'est pas une pièce à machine, il y a pas, il y a quelques petits trucs, mais assez peu finalement de magie, et je me suis vraiment, vraiment ennuyée.
Marie-Josée Sirache sur cet oiseau vert.
C'est un spectacle que j'ai vu à sa création, j'avais gardé un très bon souvenir et je l'ai revu avec beaucoup de plaisir, même si je dirais un mot sur le théâtre, c'est-à-dire que le plateau du théâtre de la Porte Saint-Martin est tellement étroit que ça...
Pour le coup, ça manque d'air.
Ça manque vraiment d'air, parce que le plateau du Théâtre National de Toulouse est avait une amplitude et une profondeur extraordinaire qu'on ne retrouve pas ici à Paris. Ceci étant, moi c'est une pièce que j'ai découverte au moment de sa création, et j'ai trouvé ce théâtre totalement fantaisiste, joyeux, débridé, qui se moque allègrement de la philosophie du siècle des Lumières, avec ces deux jeunes gens qui se piquent de philosophie et qui la mesure au poids et non pas au contenu. C'est assez drôle. Ensuite, avec ce personnage de parents adoptés qui sont charcutiers, qui parlent un peu comme des charretiers, mais donc il y a un mélange du niveau de langue qui est intéressant, qui brasse en même temps un théâtre populaire et un théâtre un peu plus savant, puisqu'il y a des références à de la poésie, à de la philosophie. Tout ça fonctionne allègrement. Moi, je trouvais la distribution intéressante. Marie-Lou Marigny en reine mère cruelle avec des ongles crochus qui éructe, qui s'énerve et qui finit par s'enticher de son poète qui fait des vers de Mirliton à tout bout de champ. C'est assez drôle, ça fonctionne. Le couple de charcutiers aussi. Et puis cet oiseau vert, cette part de magie que Pelli est capable d'amener sur un plateau, je me souviens avoir vu avant un Shakespeare qui était aussi magique et facétieux, et c'est beau. Enfin, moi, je rentre complètement dedans. Je trouve que ça nous amène loin. C'est léger. Il y a parfois presque un côté Jacques Demy avec ses chœurs de pommes, là, pour le coup, qui se mettent à chanter avec une eau philosophale. Enfin, c'est très très. Ça fait appel à l'imagination la plus simple, la plus débridée et la plus joyeuse. Et c'est ça qui est beau dans ce spectacle. Les décors sont minutieux, ils sont beaux. On se dit qu'ils se moquent pas de nous. Enfin, on en a plein les yeux et c'est bien d'en avoir plein les yeux aussi de temps en temps.
Bon, deux avis très différents, bien de l'entendre. Celui de Philippe Chevillier maintenant, qu'on a pu lire déjà dans les Échos.
Oui, donc je suis plus du côté de la team Marie-Josée sur la question. Voilà. Non, moi je pense que c'est c'est vrai que c'est un drôle d'oiseau, cet oiseau vert, mais c'est vrai que moi j'aime bien découvrir aussi des pièces parce qu'on voit des classiques tout d'un coup. Là, ça, on peut pas dire que ça se remontait très souvent, cet oiseau vert. Et j'aime bien ce côté, c'est de la commedia dell'arte tardive, donc il met vraiment beaucoup de force dans cette commedia dell'arte. C'est une farce féerique, qui se veut philosophique, c'est ce qu'on a tous dit. Et ben, je trouve que Laurent Pelly réussit justement à traduire cela. Alors, le jeu, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est tous de très bons comédiens. Ensuite, on n'a pas le même jeu, parce que quand on a le jeu complètement décalé des deux jeunes gens qui sont idiots un peu et donc qui jouent un peu idiots, et que de l'autre côté on a le pantalon et tout ça qui joue façon justement comédie alerté. Marie-Lou Marigny, c'est une sorcière géniale, c'est vraiment l'apparition. Alors c'est aussi le costume, hein, je dois dire, il est fort le costume, et elle joue effectivement, elle en fait des tonnes, mais c'est pour moi, pour mon plus grand plaisir. Il faut pas jouer ça à mon avis de façon impressionniste, donc
c'est pas du Metternich, hein.
Voilà, et je trouve que justement, comme il y a une élégance chez Pelly, on a en même temps cette poésie qui revient de temps en temps. Il arrive, parce que quand même, vous disiez, Lucie, qu'il n'y avait pas beaucoup d'effets, mais enfin quand même des pommes qui chantent, de l'eau qui danse, des statues qui parlent, et il y a toujours du second degré. C'est-à-dire que moi, j'apprécie la traduction d'Agathe Malinon, parce que elle arrive à faire que le texte soit audible, et puis même dans les improvisations qu'on est, moi ça me fait, il y a beaucoup de moments qui me font rire, et à ce moment par exemple il y a sans arrêt des statues qui arrivent de partout et qui parlent sans arrêt, et il y a justement le personnage de la bouchère qui dit en aparté en voyant la jeune fille parler à la statue, elle est intime avec les statues. Moi c'est plein de petites choses comme ça qui me font rire. Alors je reconnais une chose, et je pense que peut-être que ça peut ingéder un peu les enfants d'ailleurs, parce que c'est long, c'est 2h20 et c'est un petit peu long, mais pour le reste, moi aussi, je l'ai vu à Grenoble, un peu après la création, et je l'ai revu avec plaisir hier. Voilà, moi, c'est une farce féerique, et la philosophie, on en parlera peut-être, mais je trouve ça assez amusant aussi.
Mais c'est vrai que, bon, il aurait sans doute gagné Laurent Pelly et Agathe Mélinan qui traduit, à couper quelques scènes. Le spectacle supporterait bien d'avoir 20 ou 30 minutes de couper. Non, d'autant qu'il y a des répétitions en plus, vraiment, dans certaines scènes, dans certains dialogues. Ouais. Donc, mais c'est vrai que pour que ça passe de façon encore plus fluide, parce que moi, alors pour le coup, j'ai trouvé ça extrêmement fluide, élégant, des beaux tableaux, avec certes pas énormément de moyens, hein, juste de faire descendre des cadres ou de faire descendre des lumières. Enfin, ce sont des choses qu'on a vues beaucoup, mais qui, quand elles sont faites avec précision, pour moi, fonctionnent en tout cas très bien. Je connaissais pas non plus du tout ce texte que j'ai donc moi découvert hier après-midi avec des enfants qui posaient plein de questions et qui intervenaient et qui réagissaient très bien derrière moi. Mondo s'en souvient parce que évidemment, quelques coups dans les fauteuils. Mais c'est vrai qu'on est à la fois sur un conte philosophique qui est bien de son temps, 18e siècle, avec des questions sur l'amour propre. Est-ce qu'il faut s'en débarrasser pour pouvoir vivre? Au contraire, est-ce qu'on a quand même besoin? Et en même temps, il y a eu presque une analyse pré-psychanalytique qui est assez drôle sur les motivations de nos actions. Enfin, j'ai trouvé ça assez surprenant. Peut-être que c'est Agathe Mélinon qui l'a ajouté. Et moi, j'ai trouvé quand même des nuances aussi chez les comédiens, heureusement, que j'ai trouvé vraiment tous bien choisis. Je trouve qu'il y a une distribution qui est très homogène, parce qu'ils sont quand même assez nombreux, les comédiens sur le plateau. Marie-Louise Marigny, on en a déjà parlé. Moi, j'ai une affection particulière pour Nanou Garcia, qu'on voit pas très souvent, et qui est là, donc la charcutière, et que j'aime beaucoup. Alors, oui, ils en font des tonnes, et quand je disais que c'était pas du Metternich, Lucile Comeau, c'était évidemment pas une pique contre vous, vous vous doutez bien. C'était pour dire que, ils y vont. Ils y vont vraiment.
Alors, par exemple, prenons les personnages des jumeaux qui, en effet, sont censés totalement évoluer, puisqu'au départ, sont des oies blanches qui ne savent pas qui ils sont, qui, en effet, ont lu un peu des bouquins.
Ce pic de philosophie.
Voilà. Et ils se transforment parce que... on va pas tout révéler, mais en gros, ils acquièrent une richesse incroyable. Et donc, ils se transforment, elle, en mégère.
En nouveau riche, pur.
Voilà. Je suis désolée, mais il n'y a pas une différence de jeu énorme entre leur apparition et ce moment de transformation.
C'est parce qu'ils sont déplaisants dans les deux camps.
Voilà,
dans
les deux camps. Du début à la fin.
C'est à la fin que ça change.
Ça change pas tant que ça. Moi, je trouve rien n'évolue. Alors, peut-être, oui, en effet, vous parliez de tableau. On a un peu l'impression d'avoir une succession de tableaux ou de numéros, si on est gentil, parce qu'on a l'impression qu'il y a des trucs qui changent. Mais franchement, enfin, il y a très très peu d'évolution. De la même manière que vous dites la beauté, la fantaisie, l'oiseau vert, il faut quand même le dire, c'est au départ un petit oiseau en papier au bout d'une baguette, dont on voit évidemment le marionnettiste, puisque c'est lui qui parle.
C'est le comédien.
Et oui, et à la fin, le comédien est affublé d'un gilet immonde avec des 3-4 plumes vertes qui dépassent. Non mais sérieusement, pour donner une idée de l'impression visuelle, c'est quand même pas extrêmement beau. Alors à côté de ça, et c'est très étonnant, je trouve le contraste, on a un décor qui, je l'ai dit, est vraiment très beau, une lumière qui est parfaite, moi je regardais plus que ça parce que j'en avais marre, et une musique par ailleurs qui est extrêmement belle, enfin vraiment, et assez subtile, assez fine dans ses dissonances, qui va pas du tout avec le contenu de la pièce et avec le jeu des comédiens.
Philippe Chevillier.
C'est très étonnant.
Je pense que peut-être que je m'avance, que c'est Prokofiev, non, qu'on entend.
Bah, pas tout le temps. Enfin, il y avait
par moment, c'est dissonant. Non.
Oui, bon,
moi, j'avais l'impression que c'était plutôt une. J'ai pas les papiers sous les yeux, mais que c'était une musique originale et que c'était, en l'occurrence très beau. Mais justement, c'est très étonnant. Il y a un côté très fin, très délicat dans la mise en scène et dans la scénographie pour un texte dit comme vraiment du théâtre un peu vieillot, quoi.
Philippe Chevillier.
Moi, je pense encore une fois que il y a des codes qui sont ceux de la comédie dell'arte, mais justement, je trouve que ce qui est fort, c'est d'arriver à faire qu'il y ait toujours ce second degré sans cesse, et notamment dans le personnage effectivement de la bouchère ou charcutière. Mais
charcutière.
Bon, boucher, charcutier, je pense qu'elle dit.
Bon, pas le même métier, hein. Bon. Prenez vos responsabilités.
Et il y a ce jeu qui est censé être un jeu effectivement de la maman en colère, mais qui est toujours un petit peu dans la dérision. Encore une fois, le personnage de Marie-Lou Marigny, vraiment de la vilaine sorcière, est quand même assez étonnant. Et puis il y a le personnage aussi du roi, qui est un roi dépressif, totalement hystérique, qui est joué par Emmanuel Domas.
Il est génial.
C'est quand même des personnages qui me font rire. Alors c'est des personnages, c'est des caricatures. Mais on est dans la comédie dell'arte, donc il faut qu'on y soit. Et en même temps, je trouve pas que ça soit la comédie dell'arte à la. Et en plus, il y a un élément qui est dans la. Alors pour le coup, qui est la philosophie, c'est que c'est l'anti-Goldoni. Il veut pas parler des petites gens, il veut parler des contes, il veut se moquer de la philosophie et des lumières, c'est un méchant Godsy, donc c'est très un petit peu parodique tout le temps, mais je conçois que ce côté parodique qui est toujours dans peut sembler à la longue un petit peu longuet, ça je le conçois.
On s'arrête là-dessus, Marie-Josée Sierra, je voulais dire encore un mot.
Non, je rajouterais ce que vous disiez au tout début, Arnaud, à propos de la rareté de Laurent Pelly au théâtre à Paris. C'est vrai que c'est incompréhensible que ses précédentes pièces tournées ou pas, mais jamais à Paris. Résultat des courses, il se retrouve dans un théâtre privé. Donc moi, ça me pose des questions sur l'économie, parce que c'est quand même une réalisation du théâtre public. Donc je ne connais pas les passerelles, j'avoue que je n'ai pas creusé la question, mais ça quand même, ça interroge un petit peu. Et pour le coup, encore une fois, je trouve que l'étroitesse du plateau du théâtre La Porte Saint-Martin
n'aide pas
quand même cette pièce qui mérite beaucoup d'espace qu'elle avait ailleurs ou qu'elle peut trouver sur des plateaux comme, je ne sais pas, il y a Gennevilliers, enfin, ou même l'Odéon. Enfin, il y a quand même des plateaux beaucoup plus grands pour accueillir ce genre de spectacle-là. Parce que Pelly, non seulement il y a des scénographies qui sont grandioses, mais des lumières, un travail de lumière important. Donc des techniciens qui sont là, qui sont extrêmement aguerris à ces indications. Et je trouve que là, il y a une déperdition quand même.
Philippe Chevillier, pour finir.
Non, moi je trouve un peu à l'inverse que c'est assez courageux de la part du théâtre de La Porte Saint-Martin de prendre une pièce qui n'est pas connue, de remettre en scène Pelly. Je pense qu'ils ne vont pas faire beaucoup d'argent avec, mais même si ça remplit parce que c'est un spectacle cher. Il y avait du monde quand on était là, et je trouve que c'est une bonne initiative. Ils le font avec les techniciens du théâtre et puis la troupe. Et voilà, donc c'est plutôt ça.
C'est vrai qu'on parle régulièrement du théâtre de La Porte Saint-Martin depuis sa nouvelle direction.
Si les théâtres publics n'en veulent pas, voilà.
Il y a le théâtre de La Porte Saint-Martin. Et un commentaire pour finir que Aïssa Tundoy nous révèle.
D'Olivier Dresser, qui lui semble voir dans le spectacle des références à la BD et au cinéma, et demande si vous partagez ce point de vue. Le roi est génial, pour lui on est dans la famille Adams, c'est tout est très beau, décor, costume, trois petits points.
Oui, BD,
oui,
cinéma.
C'est la famille Adams.
Oui, notamment le roi. Bon, Lucille Como, elle fait la moue, de toute façon.
Et les pommes qui dansent un petit peu avec une musique italienne.
Non, mais il y a beaucoup de choses à voir dans ce spectacle qui se joue en ce moment, donc on l'a dit, au théâtre de La Porte Saint-Martin. C'est L'Oiseau Vert de Carlos Gozzi, mise en scène Laurent Pelly.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte.
Troisième spectacle au sommet de cette dispute en lien évident avec le précédent, puisque avant de diriger le théâtre Gérard Philippe, Jean Bellorini a été artiste invité au Théâtre National de Toulouse, Midi-Pyrénées, dirigé alors par Laurent Pelly, et c'est au TNT que Parole Gelée a été créée en 2011. Spectacle repris donc en ce moment au Théâtre Gérard Philippe, spectacle qui fit vraiment connaître le jeune metteur en scène, qui reçut d'ailleurs pour celui-ci deux Molières en 2014. Jean Bellorini et Camille de la Guillonnière ont signé cette adaptation de Rabelais. Bellorini donc signe seul la mise en scène. Beaucoup de monde sur le plateau, 13 comédiens, musiciens, chanteurs. Un plateau transformé en bassin puisque chez Rabelais, les paroles gelées se rencontrent sous forme de glaçons et selon les humains qui les touchent, ils les font fondre et deviennent des mots qui ont des sens différents. C'est un épisode du Quart Livre qui voit Pantagruel et Panurge faire un long voyage.
Par Dieu, dit Panurge, pourrions-nous voir quelques-unes de ces paroles ? Venez ! Venez, dit Pantagruel ! Voyez-en ici, qui ne sont pas encore dégelés ! Alors, il nous jeta sur le tillac de pleine poignée de paroles gelées ! Et elles ressemblaient à des dragées perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinope, des mots d'azur, des mots de sable, des mots doré.
Il s'agit bien de Rabelais et de Paroles gelées, vues par Jean Bellorini, Marie-Josée Sirache.
Oh, c'est un spectacle extrêmement joyeux, c'est une ode au théâtre, à la langue, à la fête. Il y a de la truculence dans l'air, un plaisir enfantin de patauger dans l'eau, de faire des ronds dans l'eau, de jouer avec les mots, de les faire rire, vibrer. Moi, je l'avais pas vu à sa création, hélas, mille fois pardon. Je l'ai découvert. Non, c'est vrai parce que voilà, faute de temps et puis c'est la vie. J'étais très heureuse d'avoir l'occasion de le voir et je comprends tout le théâtre de Bellorini. Effectivement, il est là dans ses premières pièces. C'est pas la première, mais c'est.
Ben, elle fait partie de ses premières pièces. Il y avait eu Tempête sous un crâne aussi après Hugo.
Il y a eu Tempête sous un crâne auparavant. C'est un théâtre à la fois de très tôt, très artisanal, qui convoque le jeu, le cirque, la danse, le chant. Enfin voilà, tous les ingrédients sont réunis avec des acteurs, avec le côté troupe des acteurs. Ça, c'est important. On les sent tous unis comme les doigts de la main. Ça fonctionne et Bellorini est à la manœuvre avec pour l'adaptation ils ont travaillé à deux enfin et la mise en scène avec Camille de la Guillonnière qui est là sur le plateau qui a une présence incroyable enfin qui est drôle hein, quand il explique de manière très docte l'origine des mots enfin ou qui nous traduit les mots anciens. Et on découvre un Rabelais avec un plaisir neuf qu'on avait un peu oublié, qu'on avait peut-être pu voir du temps du lycée. Et là, toute sa magie, sa force poétique ressort sur le plateau et je trouve ça très, très intéressant.
Philippe Chevillé, sur Paroles gelées.
Bah, je ne dirais pas mieux. Non, en fait, je pense que ce spectacle, il est vraiment... emblématique du travail de Bellorini, de ce qu'il avait, ce qu'il a porté un petit peu au nu, et ce qui fait que il y a vraiment maintenant des gens qui aiment beaucoup son travail. Alors il est allé dans des choses plus sérieuses, si je puis dire, puisqu'il est les frères Karamazov. Moi, j'avais pas trop aimé. Le travail qu'il a fait avec les Russes, moi, qui m'a semblé intéressant, plus épuré. Il est dans une autre démarche. Mais là, on retrouve un petit peu tout ce qui a fait le point de départ, et donc il y a ce côté cabaret, ce côté cabaret rock, ce côté collage. C'est vrai qu'il y a aussi une audace quand même à adapter Rabelais, parce que finalement, sur scène, on se dit, quand on le lit, franchement, qu'est-ce qu'on peut en faire si on lit comme ça du Rabelais. Il arrive à nous le transmettre, alors, un peu à trois niveaux. Je pense qu'il y a un niveau qui est celui du récit. Alors, on retrouve les moutons de Panurge, on a ce prologue très scatologique sur comment se torcher le cul, qui est quand même assez joli.
si je puis comme dire. C'est bien dit.
on a ce monologue sur l'éducation à un moment donné, il y a cette très belle fin sur les paroles gelées, sur le dégel des mots, sur et donc on a ces parties-là qui sont très intelligibles. On en a d'autres qui sont plus poétiques, presque abstraites, quand on a les longues énumérations, alors qu'ils sont servis par des acteurs. Moi, je m'est arrivé de dire que Geoffrey Rondeau, qui est un acteur assez étonnant, en faisait beaucoup. Là, je trouve que c'est bien qu'il en fasse beaucoup parce qu'il les porte bien. Et il y a pas mal comme ça de comédiens qui les portent bien. Les chants sont souvent assez réussis. C'est un côté cabaret, mais et un peu déstructuré. Et en même temps, il y a une cohérence. Et puis, il y a un côté un peu subliminal par moment, quand il y a des tunnels où tout d'un coup, on n'entend plus très bien ce qui se dit. Parce que c'est vrai que par moment, avec la musique, quand ils disent des mots sur scène, on ne les entend pas. Les mots rentrent quand même dans la tête. Et à la fin, on se retrouve avec l'essentiel de ce qu'on peut penser être ce que nous a légué Rabelais, c'est-à-dire la paillardise, un peu une forme de folie, de tolérance, d'humanisme, et puis aussi sa façon de s'attaquer aux puissants, de s'attaquer aux guerres, la guerre des andouilles, qui est quand même une guerre idiote, il faut bien le dire. Donc voilà, avec petite réserve, encore une fois, sur la longueur, je trouve qu'il y a encore 20 minutes de trop.
Décidément,
mais ça,
ce soir,
c'est voilà, on va pas.
Bon, on a parlé de spectacle qui était plutôt long ce soir, c'est vrai. Lucille Como, qu'on n'a pas encore entendu sur Paroles gelées.
Oui, c'est dommage la longueur, parce que finalement, le spectacle qui a vraiment un pouvoir, pour le coup, là, je trouve, d'émerveillement et de comique assez fort, perd en fait dans la longueur à la fois la capacité à surprendre et la capacité à faire rire, parce qu'on comprend de plus en plus comment fonctionne le comique rabelaisien et surtout comment il est mis en scène. Du coup, c'est vrai que peut-être la dernière trois quarts d'heure, une demi-heure, c'est dommage. Mais moi, pour le coup, pour moi, c'est vraiment l'anti-Boisseau Vert, dans la mesure où le spectacle réussit vraiment à articuler le poétique et le burlesque. Et pour moi, ça fonctionne extrêmement bien. Bon, en même temps, je pense que le texte de Rabelais est autrement meilleur que le texte de Gozzi. Il faut dire quand même que le spectacle n'est pas que... parce qu'au début, j'ai eu un peu peur de ça, qu'une succession de numéros. Il y a vraiment le fil rouge du personnage de Panurge, parce qu'en fait c'est lui plus que Pantagruel le héros qui a l'idée de se marier et va éprouver cette idée dans un grand voyage qui est en fait une anti-odyssée totalement burlesque et veut consulter l'oracle de la Dive Bouteille. Donc ça donne à la fois lieu à des moments extrêmement bavards. Vous l'avez dit, moi je trouve que c'est assez impressionnant. Je connais assez bien Rabelais, pour l'avoir beaucoup étudié pour le coup et assez récemment. Et je me suis dit, mais comment il va faire avec les listes? Est-ce qu'il va zapper tout ça, tous les effets de liste rabelaisiens, ou est-ce qu'il va se les coltiner? Et il se les coltine avec brio, c'est-à-dire sans les contourner. Il y a vraiment parfois 10 minutes, un quart d'heure de liste, notamment ce fameux grand repas que Pantagruel donne à Panurge lors de leur rencontre, où tous les mets sont détaillés avec musique, parfois c'est rappé, parfois c'est déclamé, parfois c'est chuchoté. Enfin, je trouve ça extrêmement brillant. Et puis, à côté de ce comique de mots et de textes, il y a vraiment le corps des comédiens qui est... Enfin, moi, je trouve ça impressionnant ce qu'il fait avec sa troupe. Il y a notamment un tableau absolument splendide où ils sont sur l'eau, donc, puisqu'ils sont toujours au milieu de ce carré d'eau, et où ils montent une table, puis des tabourets, puis un vélo qui est en biais, et hop, ils montent par-dessus ça. Et ça donne une sorte de tableau burlesque qui fait penser au cinéma muet, qui est magnifique. Une robe de mariée qui tombe, hop, parfaitement sur l'actrice principale. Tout ça, et pour le coup, fonctionne très bien. On a une vraie pièce à effet, vraie pièce à machine. Voilà, c'est un petit peu long, mais c'est quand même du sacré boulot, quoi. C'est impressionnant.
Bon, impressionné aussi par le côté méridional de Lucille Como, qui nous dit 10 minutes à quart d'heure pour les listes et 3 ou 4 plumes pour l'oiseau vert. Bon, dans les deux cas, vous augmentez pour l'un, vous diminuez pour l'autre, mais bon, vous arrivez à quelque chose. Non, c'est vrai
que c'est mon objectivité légendaire.
Voilà, il y a des listes, mais ça, c'est le ressenti de la spectatrice. Hein. Ouais. En l'occurrence, le quart d'heure n'est pas long pour la liste, il est juste au contraire un tour de force assumé ici chez Jean Bellorini. Moi je l'avais vu à sa création et pas revu, pardon, à chacun à son tour de s'excuser. Enfin, à sa création, pas à sa création, mais quand il était déjà passé aux ateliers Berthier, à l'Odéon pour le coup, il y a un certain nombre d'années,
au moins six
maintenant
ans,
peut-être, 5 ou 6 ans. On a quand même eu un tweet qu'il faut quand même signaler, je crois, qui est ici, cet Undoï, de Dupré.
Un commentaire de Dupré qui apprécie beaucoup le point de vue de Lucille Comeau.
Voilà, les commentaires de Lucille Comeau. Je vous ai perdu la page au moment où j'essayais de vous la faire lire. Donc voilà, j'apprécie beaucoup les commentaires de Lucille Comeau. C'est exactement le texte de Dupré. Vous voulez dire un dernier mot, Philippe Chevillier?
Nous aussi, on apprécie beaucoup.
Ouais, même si on pense rigoureusement le contraire.
Ça n'empêche pas. Non.
Et bien évidemment que ça n'empêche pas. C'est même un peu l'ADN de la dispute. Parole gelée. D'après François Rabelais, c'est une mise en scène de Jean Bellorini. C'est jusqu'au 3 juin au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Et avant de conclure cette émission, c'est l'heure tant attendue du jeu de la dispute. Et ce soir, Aïssa Tundoï va nous rappeler dans un premier temps la question du jeu de vendredi soir et nous donner sa réponse, Aïssa Tundoï.
Quel célèbre street artiste a réalisé le documentaire « Faites le mur » et la réponse est Banksy.
Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on gagne ce soir dans la dispute? On gagne des invitations pour un spectacle que sera le théâtre en 2018. Ça va se passer à Nice, au théâtre de Nice. C'est l'événement Les Utopies Culturelles. C'est un spectacle de Cyril Cotineau et Sébastien Davis. Les places sont à gagner pour vendredi, le 25 mai à 20h30. Quelle est la question, Aïssatou?
Quelle pièce de William Shakespeare, Cyril Cotineau et Sébastien Davis ont-ils commis en scène en 2017?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer par courriel et par courriel seulement à cette adresse auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. N'oubliez pas, préparez vos commentaires pour l'émission de demain, à poster sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant, malgré que vous l'attendiez le direct pour commenter en suivant le compte Twitter Dispute FC. Demain, 19h, une dispute consacrée à la musique. Nous serons en compagnie de Sophie Rosemont, Philippe Azori et Olivier Lam sur nos platines Invasion of Privacy de Cardi B, Tell Me How You Really Feel de Courtney Barnett et The Water Wheel, a tribute to Hamza Heldin de Bachar Mar Khalifeh.